Voilà, donc rebonjour. Vous avez vu sur les carrefours, je m'appelle le père Vincent Meyer, prêtre du diocèse de Metz, membre de fraternité de l'ordre franciscain séculier. Voilà, et donc il m'a été demandé de faire un exposé sur ce que le père Marie-Joseph disait de saint François d'Assise. Alors en trois quarts d'heure, je vous donne juste quelques pistes. J'ai repris un certain nombre de ses écrits, tout ça, et je vais vous projeter quelques citations, quelques extraits que j'ai essayé de classer un peu. Voilà. Je vous propose qu'on commence simplement par prier. Cette prière qui est montée du cœur de saint François devant le crucifix de saint Damien, qui demande la lumière, qui demande la foi, l'espérance, l'amour, l'humilité.
Oui, il n'y a pas d'humilité là.
Oui,
j'allais dire.
Oui, je viens de le voir à l'instant.
C'est dommage.
Mais c'était, en fait, c'est dans l'extrait que j'ai vu, c'était comme ça. Et puis de demander à connaître le Seigneur et connaître sa volonté. Voilà, alors je propose qu'on commence par cette prière parce que, d'une part, c'est la montée du cœur de saint François, elle est pour toute la famille franciscaine. Et puis, c'est parce que, en faisant l'exposé, vous entendrez beaucoup parler de saint François. Ça vous dira aussi qui est le père Marie-Joseph en arrière-fond. Mais vous verrez dans les extraits qu'en fait, ce qui compte, c'est le Seigneur. Hein. C'est lui qu'on veut connaître à travers ses témoins. Voilà, c'est pour ça qu'on va d'abord se tourner vers lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Ô Dieu, grand et glorieux, mon
Seigneur Jésus-Christ, dissipé, je vous prie, les ténèbres de mon esprit. Donnez-moi une foi pure, une espérance ferme, un amour ardent. Faites que je vous connaisse, ô mon Dieu, et que je fasse toutes choses selon votre sainte volonté.
Amen. Voilà, alors, j'ai pas eu tellement le temps de faire ma répétition générale, donc je sais pas combien de temps ça dure. Donc vous me surveillez un petit peu. Voilà, donc ce que le père Marie-Joseph nous dit de saint François. Vous avez la photo un peu traditionnelle du père Marie-Joseph. Juste avant, en introduction, il m'a semblé intéressant de commencer par cette citation du père Marie-Joseph. Alors pour les citations, j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas toujours noté. Là, je l'ai noté, mais j'ai pas toujours noté. Mais en tout cas, vous avez un livre en bas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles du père Marie-Joseph. Tout est dedans et les références aussi. Voilà, en tout cas, pour continuer sa mission d'amour et de salut auprès des hommes, le Christ a fondé l'Église. À commencer par situer tout ce qu'on va entendre dans ce projet de Dieu de sauver tous les hommes. C'est toujours ça, hein. Dieu veut sauver tous les hommes et il le fait par Jésus, par la puissance de son esprit. Il envoie Jésus pour... il faut que j'appuie.
Non, c'est bon, ça y est.
Ils sont tous allumés.
Celui tout à gauche, c'est pas... tout à droite, c'est pas moi, mais les autres, c'est bon.
C'est bon, tout est allumé là.
Donc
il a envoyé son fils Jésus et Jésus a institué l'Église pour participer, pour collaborer à son œuvre. Et dans cette Église se situent tous ces charismes, tous ces saints, ces saintes, les différentes familles spirituelles, etc. Voilà. Être vraiment chrétien pour le monde. L'Église regarde avec amour les nombreux hommes et femmes attirés vers une vie chrétienne profonde et rayonnante, qui cherchent et souvent luttent et souffrent en leurs conditions de laïcs. Eux aussi sont appelés à monter vers les sommets de la vie chrétienne. Pour les éclairer et les aider en leur effort, elle leur offre les exemples et les expériences de certains de ses fils, que le Dieu d'amour a manifestement suscité comme modèle et guide de leurs frères. François d'Assise en est un illustre exemple. Voilà, cette citation nous situe tout de suite dans la mission de tous les baptisés. Voilà, j'ai mis une petite photo du baptême d'un enfant. De tous les baptisés, et saint François, il va être là pour, pour aider vraiment à vivre de façon rayonnante, profonde, cette vie baptismale. Alors là, c'est pour les laïcs, mais c'est aussi pour les... Enfin, c'est pour toute la famille franciscaine, bien sûr. Saint François va se situer là, comme exemple, comme modèle, comme guide, pour vraiment vivre notre baptême, le plus possible.
On aura un topo, votre exposé ou pas ?
Un écrit, j'ai pas prévu d'écrit, non ?
Pas d'écrit.
Bon, non. Attends. Voilà. Oui. Non, déjà. Mais si vous me donnez votre adresse mail, je peux vous mettre mon adresse mail et puis vous m'envoyez un mail pour me dire que vous voulez avoir le PowerPoint avec les... on peut faire ça. D'accord. Les saints nous sont donnés par Dieu. Voilà, alors j'ai mis un certain nombre de photos de saints, mais tous les saints sont suscités par Dieu pour le bien de l'Église. Il en est parmi eux qui ont un charisme, une mission spéciale. Ça, c'était au retour d'un pèlerinage. Il introduit le charisme de saint François. Voilà, mais c'est toujours situé, non pas en opposition, non pas focalisé, mais toujours dans ce concert de tous les charismes de l'Église. Charisme, mission qu'on ne s'arroge pas, mais qui sont donnés par Dieu pour l'édification du corps du Christ. Ce serait donc, dit le père Marie-Joseph, peu sage de les ignorer ou les minimiser. Ben oui, puisqu'ils viennent de Dieu et qu'ils sont là pour l'édification du corps du Christ. Voilà, tous les saints sont donnés par Dieu. Alors, deux exemples, il y aura bien sûr saint François en deuxième, mais le premier, au XVIe, XVIIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle le jansénisme, une religion un peu pharisaïque d'une certaine façon. Exactement en ce temps-là, voilà qu'à Paray-le-Monial, le Sacré-Cœur se révèle pour que les âmes de bonne volonté ne perdent pas courage, mais osent vraiment croire à l'amour. Pour cela, Jésus a révélé son cœur dans les apparitions à sainte Marguerite Marie. Déjà, saint Jean-Eudes, saint François, c'est saint François de Sales, là, je crois, avait répandu le culte du cœur de Jésus, mais il fallait que l'Esprit-Saint frappe un grand coup. Les apparitions à Marguerite Marie de ce cœur qui aime tant les hommes. Le père Marie-Joseph avait été professeur d'histoire de l'Église et voilà, il aimait bien voir toute cette œuvre providentielle de Dieu à travers l'Église. Pour saint François, Dieu n'abandonne jamais son Église. Au pire moment de l'histoire de l'Église, il y a eu des événements qui ont renversé la situation. Pensez au temps de saint François. Le songe du pape Innocent III n'était pas sans fondement. La basilique du Latran vacillait sur sa base. En réalité, tel était l'esprit de ce temps-là dans la chrétienté, et voilà qu'un pauvre mendiant se présente. Si vous regardez, vous avez un développement de cette citation dans les audiences du pape Benoît XVI. Sur les ordres mendiants. Il explique bien comment, quelle était la situation de l'époque et comment, providentiellement, les ordres mendiants ont été suscités par l'Esprit-Saint. François avait ses qualités et ses défauts à relever. D'abord les qualités. Son besoin de franchise, sa délicate générosité envers les pauvres, le sens de la courtoisie et de l'équité, entre par exemple l'échange de son habillement de noble avec les vêtements minables d'un chevalier pauvre. Ça dit quelque chose à tout le monde, si vous connaissez un peu l'histoire de saint François. Une répulsion instinctive de la grossièreté, un tempérament décidé et actif. Après, il dit, il y a aussi le revers de la médaille, mais il ne donne pas beaucoup de détails. En somme, un portrait sympathique. François est intelligent sans être cérébral. Il a du cœur, du dynamisme. C'est dans cette riche nature que va tomber la grâce du Christ.
Qui c'est qui dit ça?
Le Père Marie-Joseph.
Ah,
c'est, j'ai que des citations quasiment du Père Marie-Joseph. Ouais. C'est dans cette riche nature que va tomber la grâce du Christ. Mais on est toujours dans la continuité de ce qu'il disait tout à l'heure. Hein. Les saints sont donnés par Dieu. Saint François est un don précieux pour l'Église et le monde. François est un don précieux, un signe que le Christ a fait à son Église au XIIIe siècle et pour tous les temps, le nôtre aussi. Comprendre Saint François, voir ses qualités naturelles, puis sa correspondance loyale et généreuse à l'appel et à l'œuvre de l'Esprit, c'est beau. Cependant, il importe de bien considérer le dessein d'amour particulier, le projet que le Seigneur avait sur lui et entendait accomplir par lui. À partir et à travers sa vie de petit pauvre, d'humble frère mineur, atteindre et soutenir l'Église et le monde. Voilà, c'est toujours ce souci qu'on ne s'arrête pas, il le dira encore plus fortement tout à l'heure, mais je le dis déjà, le souci qu'on ne s'arrête pas juste à l'homme, autant de qualité qu'il est, voilà, et il en avait. Il en avait de grandes, il aurait pu avoir une vie très riche, très, très sympathique, il aurait pu mourir en disant ben, « j'ai une belle vie » et tout ça, voilà, avec beaucoup d'amis, avec une situation sociale intéressante, voilà, il aurait pu avoir tout ça, mais l'essentiel, c'est la grâce de Dieu qui vient le choisir dans cette nature. Et la mission qu'il va accomplir à travers lui, le projet du Seigneur qu'il veut accomplir à partir de... Et à partir en particulier, là vous commencez à sentir le charisme propre de Saint François, hein, à travers sa vie de pauvre, d'humble, d'un frère mineur. Voilà, il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter, mais on a déjà le grand thème de la pauvreté et de l'humilité, de la minorité qui pointe son nez. Un don précieux pour l'Église et le monde d'aujourd'hui. François fut l'un de ces êtres exceptionnels, providentiels. Le pape Pie XII a dit que l'esprit de Saint François est tellement nécessaire pour les temps que nous vivons, pour son équilibre, et il a ajouté en quelque sorte pour son existence même. Entre parenthèses, quand un pape parlait de Saint François, le Père Marie-Joseph ne manquait pas de nous le redire, voyant en ses paroles une autorité, une importance. Et là, c'était Pie XII qui avait donné au Père Marie-Joseph dans ses jeunes années une bénédiction spéciale pour l'ordre franciscain séculier qu'il a toujours considéré comme une grâce spéciale pour ce qu'il a perçu comme étant son charisme au sein de l'ordre franciscain séculier. Voilà. Alors là, ça va très fort, hein, pour dire que... Bon, là, on n'est plus dans le XIIIe siècle, là, on est déjà au XXe siècle, milieu du XXe siècle, où cette parole de Pie XII nous dit combien François est important pour les temps que nous vivons, pour l'équilibre des temps que nous vivons, et il va jusqu'à dire en quelque sorte pour son existence même. Bon, je ne sais pas s'il y avait une explication de ce discours, mais en tout cas ça montre que Saint François est pour le pape et ça a vibré dans le cœur du Père. C'est pour ça qu'il s'est autant donné pour l'ordre franciscain séculier, à cause du fait qu'il sentait que le monde d'aujourd'hui avait besoin de l'esprit de Saint François. Voilà. c'est que François est un saint éminemment moderne et actuel. Bon, ça c'était milieu XXe siècle. Alors, si on revient à être encore plus contemporain, on pense à un pape qui a pris son nom, le nom de François, voilà, et qui dit que ça va être toujours actuel. Bonjour. Voilà. On continue. Alors, un événement. Alors, je vais vous le résumer, comme ça, ça changera un petit peu. En fait, le concile s'est ouvert en 1962, le 11 octobre 1962, et le 4 octobre, le pape Jean XXIII est allé faire une visite à Notre-Dame de Lorette et à Assise. Et pour le père Marie-Joseph, ça a été un signe aussi qu'il a voulu redire que ce n'était pas simplement du tourisme qu'il allait faire, une petite sortie pour prendre l'air, voilà, mais que c'était vraiment un signe pour le monde que, qu'il y a le concile est une chose des plus graves pour l'Église et le monde. Il veut tout faire en son pouvoir pour attirer les grâces d'en haut. Et pour cela, il va s'agenouiller devant Marie et il va aussi prier celui qui, dans l'Église, eu et a toujours un si grand rôle, le petit pauvre. Voilà. Son esprit de pauvreté, de fraternité, précisément pour susciter la rénovation spirituelle dans la chrétienté, un vrai printemps de l'Église, la fraîcheur et la vigueur première qui consiste dans l'amour. Amour de Dieu, amour des hommes, amour de tout ce qui est créé. Voilà. Donc avec toute cette... tout ce que disait aussi le pape Jean XXIII, hein, de sa volonté d'un printemps, d'un nouveau souffle de l'Esprit Saint. Le père Marie-Joseph a suivi le concile de façon très, 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 très au jour le jour. Et ensuite, là, on a fait l'écho souvent pour les tertiaires. Toujours dans cette même idée, Saint François est donné à toute l'Église. Cette fois-ci, pourquoi alors une famille franciscaine n'est-elle pas inutile? Ce serait certainement psychologiquement une grave erreur. Saint François doit continuer à vivre. Comment va-t-il continuer à vivre? À travers ceux qui lui sont tout amarrés, donc par une famille. Ce qui ne veut pas dire que l'esprit de Saint François soit seulement pour les membres de cette famille, mais à travers cette famille, François maintient son esprit et sa mission. Voilà. Donc, il nous dit, François est toujours présent, toujours actif, mais il le fait tout particulièrement par sa famille. Il ne s'agit nullement d'imiter François pour nous rendre semblables à François, ça c'est le début de la citation, la suite est là, mais de ressembler à François dans son amour et dans son imitation du Seigneur Jésus, pour devenir plus semblable au Christ. Voilà, on est toujours dans cette ecclésiologie, hein, cette manière de voir l'Église qui est fondée par Jésus pour qu'elle collabore au salut de tous. Il n'a pas fondé l'Église juste pour l'Église. Voilà. Et il n'a pas donné François juste pour les franciscains. Alors, ça introduit un petit peu la suite. Je vais développer un peu ce qui est dans ce... un peu même plus que ce qu'il y a là-dedans. Mais François a été voulu par Dieu pour allumer dans l'Église la lumière de la foi, le feu de l'amour pour le divin sauveur, dans la fraîcheur et la vigueur des premiers chrétiens. Son charisme, devenir aussi parfaitement que possible un autre Christ. Solidement établi sur le roc, la foi de Pierre, il réussit docile à l'esprit à purifier et à libérer son cœur, à le dilater aux dimensions illimitées de la charité du Christ par son intransigeante adhésion à Dame Pauvreté. Voilà, donc ici, vous avez un certain nombre de thèmes maintenant pour lesquels je vais trouver. Ah. Toi, tu viens juste pour faire la photo. Hein. Regardez Damien pendant quelques...
Bonjour tout le monde.
Bonjour Damien.
Donc le feu de l'amour, voilà, on va retrouver ça, le feu de l'amour, la fraîcheur, la vigueur de la foi, l'expression autre Christ, mais à mettre entre guillemets, mais il expliquera un peu, établi sur la foi de Pierre, la dame pauvreté, voilà, c'est des points pour lesquels je vais maintenant vous montrer quelques autres citations. Donc d'abord, tout ce qui est sur le Christ, François et le Christ. Ah, mais bien cher, s'il s'agissait de vous enthousiasmer pour François parce qu'il est un saint intéressant, bien cher à nos cœurs et à des cœurs amis, serait-ce raisonnable de vouloir vous engager avec tant de ferveur à sa suite ? Ah non, il ne s'agit pas, mais pas du tout, ni d'abord, ni surtout de François. D'abord et surtout, il s'agit du Christ notre Dieu, Dieu incarné, notre roi, premier-né de toute créature, notre frère, sauveur du monde. De ce Christ qui seul donne à notre vie d'être vraie et réelle, heureuse et féconde, riche et éternelle. Voilà, cette passion pour le Christ de Saint François, elle est toujours celle qui doit nous animer. Et si on s'intéresse à Saint François, c'est dans ce but-là. Mais alors pourquoi se mettre en cordée avec le Saint d'Assise, puisqu'il s'agit d'abord du Christ? Pourquoi s'atteler à un saint du Moyen-Âge? Justement parce que nous voulons découvrir, fréquenter, aimer le Christ, nous identifier à lui, être ses témoins, le rayonner, pour que le nouveau monde soit un monde réel et heureux. Justement, pour cette raison-là, nous allons vers François d'Assise. C'est qu'il est, lui, le poverello, l'homme évangélique, et comme un autre Christ. Par sa conversion totale au Seigneur et comblé des dons insignes du ciel auxquels il sut répondre avec générosité, François est devenu comme un évangile vivant, une vivante copie du Christ. Donc là, j'ai souligné trois thèmes qui ont fait l'objet d'une longue lettre dans laquelle il a développé ces trois thèmes, mais là, je n'ai pas la possibilité d'aller jusque-là aujourd'hui. Mais ces trois points, celui qui est le poverello, le petit pauvre, hein, je pense que vous aviez traduit, l'homme évangélique dans son lien à l'évangile, et puis cette expression, votre Christ, bonjour. Voilà, c'est pour cela que nous voulons nous atteler à ce saint, parce que nous voulons découvrir, fréquenter, aimer et être des témoins, rayonner le Christ. Voilà. Toujours cette expression, qui est François ? Un homme comme nous, mais le Christ est entré dans sa vie, et sa vie s'en trouve transformée. Au départ, la grâce de Dieu. Son charisme, devenir aussi parfaitement que possible un autre Christ, vivant reflet de la vie du Christ, de sa présence, de son amour. Voilà, dans cette expression « autre Christ », c'est surtout ça qui veut dire un vivant reflet de la vie du Christ, de sa présence, de son amour. J'ai lu récemment une conférence de Romano Guardini sur Saint François d'Assise, où justement il disait que c'est pas si évident que ça de parler de Saint François, parce que il y a d'autres saints, le charisme est plus facile à expliquer parce que plus précis, etc. Chacun, il y en a un qui va être éducateur, l'autre qui va être plus pour les malades, l'autre qui va être plus pour la prédication, l'autre, voilà, etc. Et François, c'est un peu plus général, quoi. C'est et il le dit presque de la même manière. En voyant Saint François, Saint François nous pousse à regarder Jésus. Il s'est attaché passionnément à Jésus, uniquement préoccupé de marcher sur ses traces. Peut-être serait-ce plus juste de dire c'est le Christ même qui se l'est attaché par la force brûlante de sa charité, à tel point que Jésus et François ne seront plus qu'une seule chose aimante, souffrante, rédemptrice. Alors j'ai mis des diapos suivantes pour ceux qui devinent à partir de cette citation de Paul Claudel. Il parlait de... Est-ce que quelqu'un devine ? Il parlait de la descente de François du mont Alverne. La grâce de l'Alverne. Au mont Alverne, François, 2 ans avant sa mort, est venu s'abîmer dans le mystère de la passion. Il fut marqué alors du sceau divin des sacrés stigmates. Pour aimer, il faut le coup de foudre. François a eu ce coup de foudre. Il s'est, comme Paul, passionné pour le Seigneur à tel point qu'il osa lui demander de lui faire ressentir un peu l'amour qui brûlait son cœur lors de la passion pour nous. Ce fut autour de la fête de l'exaltation de la croix. Le Christ écoute son amant passionné. Le miracle de la stigmatisation eut lieu, sceau divin de sa parfaite ressemblance au Sauveur. Voilà, vous voyez cet autre Christ, d'une certaine manière, il est comme symbolisé, enfin cette ressemblance, ce témoignage particulier du Christ et en même temps du Christ qui se donne pour le salut du monde, qui se fait pauvre, humble et crucifié, comme on dit beaucoup dans la famille franciscaine. C'est les stigmates qui vont en être comme un témoignage de Jésus lui-même pour le monde. Voilà, vous reconnaissez le petit tableau de la stigmatisation. Vraiment, le charisme du petit pauvre, c'est de rendre Jésus, son amour, sa rédemption, comme visible, présent pour qui veut bien comprendre. Aussi est-ce une grande grâce que d'être appelé dès sa jeunesse, surtout à entrer dans le sillage de François. Voilà, Père Marie-Joseph avait dit, par rapport à sa propre mission au service de l'ordre franciscain séculier, combien il trouvait que c'est une grande grâce. François l'Alverne, sans l'Alverne ne serait pas François. Chez lui, c'était le parachèvement de son identification au Christ. Son charisme fut de raviver l'image du Christ, trop obscurcie dans les âmes. Il était destiné à une étonnante ressemblance avec Jésus. Chez lui, je l'avais déjà dit tout à l'heure, les stigmates sont le sceau divin de son identité avec le Christ. L'Alverne est le sommet de la spiritualité franciscaine. François a tellement aimé Jésus qu'il avait soif de tout connaître de son bien-aimé. Son cœur fut incendié du brasier de l'amour divin, l'amour qui brûlait au cœur de Jésus en croix. Il y a un adjectif qui dit beaucoup cette dimension de l'amour divin brûlant, c'est l'adjectif séraphique. Voilà, vous connaissez peut-être le chant séraphique François, enfin, c'est une expression qu'on entend beaucoup. Le séraphin, celui qui est tout brûlant, brûlé et brûlant d'amour. La prière de François à l'Alverne, c'est que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meurs par amour de ton amour, comme toi tu as daigné mourir par amour de mon amour. Voilà, on sent cette puissance, cette ardeur de l'amour qui se vit à ce moment. Mais c'était déjà au début de sa vie, sa prière était montée, enfin pas au début de sa vie, au début de la conversion, à peu près au milieu de sa vie. Sa prière était montée du plus profond de son âme, tourmentée vers l'image de Jésus. Cette fois, il a vu, il a entendu. Au son de cette voix, c'est du crucifix de Saint-Damien, hein, à la vue de ce regard, il a tressailli. La voix, le regard lui ont révélé l'immense et ineffable amour du divin cœur. Sa conversion est irréversible. Elle commence, mais le fond qui va se révéler encore à l'Alverne est déjà là. Voilà. François est conquis. Alors ça, ce n'est pas une citation, c'est un résumé. Le Christ crucifié et ressuscité est l'unique orientation du cœur de François. Ce qui l'a mue, c'est une foi vive, pure, entière. Bouleversé par tant d'amour, François est conquis et il se livre. Il s'est laissé regarder par l'amour et y a répondu. Pendant ses 20 années de conversion, il a eu le désir constant de grandir, de descendre avec Jésus. Ça m'a étonné de voir que, en fait, mais enfin, c'est pas étonnant, mais c'est vraiment explicite là, c'est que à partir de sa conversion, ça va être un chemin de conversion de 20 ans. Ça va être toujours, c'est pas juste, il y a la conversion, puis après, il y a la mission de Saint François, mais c'est tout qui est un chemin de conversion. Il y aura encore d'autres étapes, avant ça, il y avait Spolette, hein, le rêve de Spolette, et puis toute cette partie où il a beaucoup prié dans les grottes et tout ça, il y a le baiser aux lépreux, tout ça, c'est des étapes de conversion, et puis il y en aura plein d'autres encore après. Voilà. En tout cas, c'est être conquis par l'amour de Jésus et y répondre. Et y répondre dans ce mouvement de descente. Désir constant de grandir et de descendre. Grandir en descendant. Voilà. Ensuite, donc le lien à l'évangile, l'homme évangélique. Il est bon d'adapter les structures aux temps actuels. Cependant, on ne renouvelle pas l'Église par des transformations de méthode, ni non plus comme les hérétiques du XIIIe ou du XXe siècle, par des critiques, des condamnations, des séparations. La seule manière de renouveler l'Église, la seule réforme qui puisse atteindre son but et réussir, c'est celle de Saint François. Elle consiste à restaurer l'Église de l'intérieur en y faisant rejaillir l'eau vive de l'Évangile. Le pape Benoît le redit aussi, hein, il dit que du temps de François, il y avait beaucoup de mouvements qui se disaient réformateurs, enfin qui voulaient changer des choses qui objectivement n'allaient pas dans l'Église, hein, notamment la richesse, etc., donc qui ont voulu être pauvres, etc., mais qui l'ont fait plutôt en critiquant de l'extérieur l'Église, alors que François a voulu rester dans la communion de l'Église. Par l'intérieur, par l'Évangile, par l'esprit de minorité. L'homme évangélique François, c'est la fraîcheur, la vigueur de la foi des chrétiens des premiers temps. Non par un retour pur et simple, l'Esprit de Dieu crée du neuf. La manière particulière de vivre la foi, de vivre l'Évangile, a quelque chose de tellement original chez François. Car François a eu son charisme, redécouvrir la puissance de l'Évangile et le traduire dans les circonstances historiques de son époque et apprendre aux chrétiens à le vivre en fraternité. Voilà. Au fur et à mesure qu'on entend ces phrases, on a la description du charisme de Saint François, donc cette identification au Christ, la puissance de l'Évangile. Ici, un mot qu'on n'avait pas encore jusqu'à maintenant, apprendre aux chrétiens à le vivre en fraternité, par cet esprit de minorité, hein, vous voyez, quand je dis minorité, vous voyez ce que ça veut dire, se faire plus petit, ne pas être avec l'autre en situation de supériorité. Alors, je reviens un petit peu à cette dimension tellement centrale de l'amour. Ici, vous avez donc l'image Je pense que vous connaissez, est-ce que tout le monde connaît cet épisode où François pleure en disant « l'amour n'est pas aimé ». Alors je ne pense pas que c'est celle-là, mais il y a une céramique, je crois, ou je ne sais plus, à la portion cul. Voilà. Donc la caractéristique de notre père François, c'est l'amour séraphique. Ah ben voilà, on l'a. C'est un amour simple, magnanime et joyeux. Si nous aimons Jésus comme l'aimait saint François, là commencerait le vrai bonheur. Voilà, ça c'est une invitation pour nous. À aimer. Dieu doit être par-dessus tout et en tout aimé de tous nos cœurs. Ce qui importe, qui a de la vraie valeur, c'est uniquement une vie d'amour et d'union avec lui dans la plus grande humilité et simplicité. Amour de Dieu, amour des hommes, amour de toutes choses, amour de l'amour. Amour dont le cantique des créatures est le vibrant écho. Voilà, aimer l'amour, parce que Dieu est amour. Voilà, aimer Dieu, aimer l'amour, c'est une même réalité. Et c'est assez original là, d'entendre François dire « l'amour n'est pas aimé ». On entend facilement « Dieu n'est pas aimé », mais « l'amour n'est pas aimé ». Alors maintenant, quelques citations sur François le petit pauvre. Je le veux pour vous tous. Là, il parle aux membres de la fraternité. Se cacher d'humilité, au moins un peu à la façon de notre père saint François, qui était tellement petit, humble, tellement pénétré de son néant, de sa misère devant Dieu. Efforcez-vous d'être une fille. Là, il parle à une de ses... des membres du groupe Saint-Thérèse des consacrés, toujours simple et candide, petite et humble, pauvre et détachée, douce et charitable, pénitente et joyeuse, gaie et souriante, une âme séraphique. Alors là, vous avez, c'est concret là, hein. Là, vous avez tout ça, c'est tout ça, être à la fois une âme séraphique, donc brûlée d'amour, en même temps pauvre. Voilà, vous avez l'amour et la pauvreté qui encerclent tous les qualificatifs que nous voulons nous efforcer de vivre, au moins un peu. Voilà. Donc la simplicité, candide, petite, humble, pauvre, détachée, douce, charitable, pénitente, joyeuse, gaie, souriante. Notre séraphique père, on l'appelle aussi le poverello, le petit pauvre. Vous savez pourquoi? Alors là, une caractéristique importante de pourquoi est-ce que François a voulu être pauvre? Parce que le Fils de Dieu, devenant homme, a choisi volontairement la pauvreté, l'humilité, le dénuement. Chez François, c'est pas d'abord issu d'une réflexion philosophique ou spirituelle. C'est je regarde Jésus, je vois qui s'est fait pauvre. Et donc je choisis ce chemin-là parce que je veux vivre l'évangile de façon radicale. Voilà. Le petit pauvre du Christ, appuyé sur chaque mot, à commencer par l'article « le petit pauvre du Christ ». C'est à François en effet que revient ce titre d'amant de la pauvreté. C'est un peu l'épisode de François qui est dans la ville d'Assise, et puis on lui demande est-ce que tu es amoureux. Il dit oui, et sa dame s'appelle Pauvreté. Amante de la pauvreté. Cet amour fut une passion. Un jour, ses frères se demandaient quelle vertu les rapprocherait le mieux du Christ. Et le saint qui les voulait frères mineurs, en raison justement de cette pauvreté chrétienne, qui est en même temps humilité, simplicité, bassesse, celle dont parle le Magnificat et que Dieu exalte, François de répondre à ses frères, « Je vais vous révéler le grand secret de mon cœur. Sachez, mes enfants, la pauvreté est le chemin le plus éminent du salut. Ses fruits sont multiples et connus de si peu d'âmes. » Voilà, c'est... Donc, le Père Marie-Joseph relève là que cette, euh, cet esprit de pauvreté est vraiment, ça fait partie de l'âme, c'est vraiment une caractéristique de François, c'est vraiment ce qui lui tient le plus à cœur, son grand secret, le grand secret de son cœur. Une béatitude, cette pauvreté évangélique, François l'embrasse avec une ardeur telle que, plein de révérence et d'amour, il l'appelait sa dame, sa mère, son épouse. Nul, dit saint Bonaventure, n'a désiré l'or avec cette convoitise qu'il manifestait pour la pauvreté. Et nul n'a jamais veillé sur un trésor avec cette sollicitude qu'il avait pour cette perle de l'évangile. Et François d'Assise a eu la sagesse des tout petits. Il devint poverello et ses frères furent des mineurs, ses filles de second ordre, des pauvres dames. Et par une inspiration divine, il a suscité une armée de chrétiens vivants qui allaient pénétrer intimement dans l'âme de la société. Ça, c'est l'ordre franciscain séculier, le tiers ordre. Comme l'huile pénètre à fond dans le marbre le plus dur et l'imprègne de son parfum. Voilà. Alors, les raisons principales, j'ai déjà un petit peu dit. Hein. Là, il associe la mère de Dieu. Jésus l'avait avec lui sur la croix, moins comme compagne que comme épouse, alors que le monde la regardait comme amère et importune. Ce mot, cet adjectif amer, on le retrouve chez le lépreux. Hein. Ce qu'il considérait comme amer est devenu en lui douceur pour l'âme et le corps. Toutes ces choses, quand il les repassait en son cœur, le jetaient dans des larmes et des gémissements qui étonnent. Comment ne pas être ému au spectacle de cet homme qui, par amour pour la pauvreté, n'a pas craint de passer pour insensé aux yeux de ses anciens compagnons de plaisir et de bien d'autres. De fait, au temps de François, l'Évangile se trouvait en perdition par suite de l'oubli de son mandement de pauvreté, de simplicité, de détachement. Voilà, donc à nouveau... le père Marie-Joseph rappelle combien c'est la pauvreté de Jésus et la façon dont Jésus a considéré la pauvreté comme son épouse que François a voulu le suivre sur ce chemin. François sera tout riche de Dieu, d'amour, de charité, parce que dans l'union à Jésus, il deviendra le petit pauvre. Et nous, déjà, nous essayons de vivre un certain esprit de pauvreté, qui ne prend pas les biens et les choses de ce monde qui passent pour l'essentiel, les valeurs primordiales et suprêmes. Que le Christ, le royaume de Dieu, soit de plus en plus votre tout. Bon là, il est toujours en train de... C'est toujours issu d'une lettre qu'il envoie à une de ses filles spirituelles. Aimez à avoir toujours le moins possible, unissez une exquise simplicité à votre genre de vie, aimez l'humilité. Rappelez-vous souvent la parole de notre Père Saint François, on ne vaut que ce que l'on vaut devant Dieu. Voilà, ça c'est une phrase qu'il répétait souvent. Bon, je vais peut-être aller vite parce que c'est un peu des répétitions. Aucun esprit de charité sans esprit de pauvreté. Le génie de François avait été d'en voir l'évidence. Ce lien entre l'amour et la pauvreté. Hein. Après, bon, j'ai encore quelques citations sur des liens comme ça que le père Marie-Joseph faisait entre François et d'autres réalités spirituelles. Donc, François et l'Église, s'efforcer de suivre Jésus et son évangile dans l'unité de l'Église, c'est faire preuve d'intelligence et de caractère. Voilà. Et il est vrai que le père Marie-Joseph, des fois, il a un peu souffert de son attachement vraiment indéfectible, notamment à ce qu'enseignaient les différents papes. Aimez l'Église, que vous soyez vraiment dans votre cœur et dans tout votre cœur attaché à Pierre. C'est cet esprit qui a permis à François de devenir François et de vivre l'Évangile. Voilà, c'est vraiment une affirmation du Père que c'est aussi parce qu'il a aimé l'Église qu'il a pu devenir François. Quelle confiance Jésus a pu avoir en ce jeune François, répare mon Église. Nous essayons de réaliser que cette parole est aussi pour nous. Jésus nous nomme par notre nom, chacun, chacune, toi, répare mon Église. Alors là, plus particulièrement par rapport à la mission particulière de l'évêque de Rome, Pierre, successeur de Pierre, Dieu, dans la toute puissance de son amour pour nous, ne saurait réaliser cette merveille de nous confier un vicaire, son vicaire sur terre, capable de nous tenir, de nous affermir dans la vérité, en ce qu'il veut que nous croyons et fassions pour lui plaire et vivre en communion avec lui. Et François a eu la sagesse de bien comprendre cela. Il était un petit, un humble, donc un intelligent, un courageux. C'est déjà la deuxième fois que vous voyez ça dans une citation, mais ça revenait souvent, ça. Être humble, c'est être intelligent. Il a souvent donné l'exemple des scientifiques. Il disait les scientifiques sont humbles parce que voilà, ils découvrent que la réalité est toujours plus grande. Voilà. Et en même temps, courageux. Sans doute, la grâce de la foi au Saint-Père et à sa mission lui a-t-elle été donnée surabondante lors de ses randonnées à la tombe de Pierre. Il parle de Saint-François. Il a eu assez de courage pour agir en conséquence, à l'opposé des comportements fracassants d'alors. Aussi a-t-il échappé aux déviations de faux réformateurs, de faux prophètes. Avec Pierre, on ne peut faire naufrage.
Il y avait une phrase qui disait que le mystère de Pierre est tellement important à notre époque.
Alors un petit mot sur François et l'Eucharistie aussi. Le mystère de l'Eucharistie, le mystère de la foi est inépuisable. Nous pouvons épuiser parce que Dieu est amour et parce qu'il est toute sagesse, tout puissant. Il peut trouver, comme le dit saint François, le moyen qu'il a trouvé pour rester avec nous. C'est l'Eucharistie. François a raison d'insister tellement sur l'Eucharistie en notre vie. Voilà, alors j'ai pas beaucoup cherché à développer ce mais on se souvient quand François parle de l'Eucharistie, quand il parle aussi du prêtre, c'est toujours en lien avec l'Eucharistie. Et puis Sainte-Claire aussi, le mystère de l'Eucharistie a été important aussi dans la vie de Sainte-Claire. Une petite diapo aussi sur le lien entre François et la Vierge Marie. C'est grâce à Marie que François est devenu saint François, l'homme pleinement catholique, le parfait disciple du Christ que nous aimons. Allons à Marie avec une confiance éperdue. François est, on peut le dire, entièrement à l'effigie de Jésus par Marie. Oh, qu'elle a un cœur indiciblement bon, qu'elle est uniquement maman. C'est elle qui a engendré le saint en François. Qu'il l'a prié. Et comme elle l'a exaucé, on peut penser pour illustrer cela à la portion cule, qui a été ce Notre-Dame des Anges, la présence de Marie et des anges, qui a été ce lieu auquel François tenait plus que tout. Et là, c'est osé, le Père Marie-Joseph dit que le saint... a été, donc la sainteté, Marie y est pour quelque chose dans cet engendrement de la sainteté dans le cœur de François. Voilà, il a beaucoup prié et elle l'a beaucoup exaucé. Comme vous n'avez pas été dans le carrefour à côté, donc c'est un petit lien entre François et Thérèse. Alors, dans la vie du Père Marie-Joseph, ça a compté ça, parce qu'il nous a raconté un jour que... Enfin, moi, je ne me rappelle pas l'avoir entendu, mais je l'ai lu, qu'à un moment donné, comme jeune capucin, il se demandait s'il n'allait pas quitter l'ordre. Il a eu cette tentation de partir, et c'est Sainte Thérèse qui l'a aidé à rester. Ouais, donc, Sainte Thérèse a toujours eu beaucoup d'importance pour lui. Alors, regarde ce qu'il en dit. Entre Saint François et la petite Thérèse, il n'y a qu'une différence de surface. D'apparence extérieure. Les deux sont animés du même esprit de simplicité et d'amour généreux. Seule la vie extérieure les différencie. Par conséquent, un point assez secondaire. Une confiance totale et universelle. Sainte Thérèse est vraiment l'écho de François. Elle a reçu cet esprit, alors bien sûr par l'Esprit Saint, mais aussi à travers surtout sa maman, qui était une tertiaire de Saint François, très fervente. Alors vous voyez, je pense que je ne me trompe pas, François a toute sa part dans la vie de Thérèse.
La maman de Thérèse, hein ?
Oui, la maman de Thérèse était tertiaire de Saint François. Donc ça veut dire que la grâce franciscaine a
aussi... Ça me permet de, une citation supplémentaire, parce qu'il est oui. dans un vidéo qui a été passé ici ce week-end, termine cette vidéo en disant « François n'est pas absent dans la sainteté de Thérèse. »
Voilà, c'est ça.
C'est bien de Père de Camarie. « François n'est pas absent dans la sainteté de Thérèse. Ouais. »
Voilà, François, l'homme de prière... qui a trouvé refuge dans sa quête de Dieu. Ça, c'est dans ses années au milieu de sa vie, hein, après le rêve de Spolète, qu'il a cherché refuge dans des grottes et des chapelles solitaires. Quand l'usure du temps, le fléchissement spirituel, en raison surtout de l'environnement sociologique d'alors, s'attaqueront à la substance même de l'esprit franciscain, c'est des solitudes que viendra le renouveau. Là, il donne l'exemple de Saint Bernardin de Sienne, qui était au Carcheri. Voilà, et qui redescendent et redonner fraîcheur et vigueur évangélique. Claire et François affectionnaient le silence, la prière, la contemplation. Dieu, ses mystères, ses merveilles, ont droit à toute notre attention, admiration, adoration, louange et gratitude. Sans l'esprit de prière, notre vie est brisée. Parce que sans le lien et contact avec Dieu, donc avec celui qui est le principe, la source, l'âme de notre vie. Sans ce lien, l'être humain dépérit, dégénère, se décompose, pourrit. Ouais, ça va fort. Hein. Voilà, mais en tout cas, François, comme Claire, des êtres profondément... il a vécu beaucoup de temps dans les ermitages, hein, François. On arrive un petit peu à la fin de... je récapitule un peu cet axe entre Saint-Ruffin, l'évêché et la portion culte. Saint-Ruffin, c'est le lieu où il a été baptisé. Voilà, comme vous rappelez le début de l'itinéraire que je vous ai proposé, ça commence avec la sainteté, le baptême, don de Dieu pour l'Église et pour le monde. Et puis, à l'évêché, il va réaffirmer vraiment son baptême en disant, je ne dirai plus notre Père Pierre Bernardone, mais notre Père qui est aux cieux. Voilà. Et puis la portion culte, alors on va se déployer la mission de toute la vie, de la fraternité. Alors, en parlant de cet événement à l'évêché, qui est la fresque là, scène bouleversante. Dans la force de l'esprit, le jeune homme se dépouille de tout et s'exclame dorénavant, je dirais non plus mon Père Pierre Bernardone, mais notre Père qui est dessus. Spectacle qui a remué bien les cœurs. On commence à se détromper. Ce jeune n'est pas un fou, c'est le contraire. Et la suite le montrera. François est parti, le cœur certes meurtri, mais l'âme, en fait, il sait, Dieu est mon Père. Tout pauvre, le voilà tout riche de la vraie richesse, l'amour divin, la joie, la vraie, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Voilà, on a beaucoup de l'âme de François, de cette liberté, de cette fête, de cette joie qui s'appuie sur la source, l'amour du Père. Peu avant sa mort, donc en 1992, il est mort en 93, c'est sûr et certain, l'ordre franciscain séculier est une grande grâce. Et travailler à cette œuvre est une grande grâce. Ce que je fais... Donc c'est comme mission pour l'ordre franciscain séculier. Je le fais parce que bon Dieu l'a voulu, et je n'ai qu'un seul mérite, un seul, c'est d'avoir pris au sérieux le bon Dieu qui nous a parlé par François et par l'autorité de l'Église qu'il faut toujours écouter et écouter sans crainte. Voilà, et puis je termine avec un merci que j'ai trouvé dans une citation du Père Marie-Joseph. Merci à François et à ses premiers frères, pour leur exemple de prière, leur leçon de pauvreté, d'humilité, de pénitence. François, vous êtes le véritable disciple du Christ, l'amant passionné de Jésus crucifié, le témoin du divin Sauveur, le héros de son amour, le messager de son évangile. Voilà, dans ce merci, il y a comme un condensé un peu de ce qu'on a pu parcourir dans ces quelques citations du Père Marie-Joseph. Voilà, et qui peut être aussi le nôtre maintenant, puisque je suis arrivé au bout du temps qui m'était imparti. Est-ce que, peut-être encore 5 minutes, est-ce que l'un ou l'autre veut soit poser une question ou ajouter quelque chose?
Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que Saint François demandait quand il demandait une foi pure? Qu'est-ce que c'est une foi pure?
Là, on sort du cadre de... une foi pure... La pureté, c'est souvent lié à la simplicité. Je pourrais répondre, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais une eau pure, c'est une eau qui n'a pas trop de mélange de saleté et tout ça. Donc, une foi pure, c'est une foi qui... dont la confiance, elle est seulement envers le Père, envers Dieu, et pas mélangée avec d'autres, et pas partagée entre différentes confiances à droite, à gauche, et qui peuvent s'opposer, hein, ou nous tirailler. Hein. Une confiance absolue, Dieu est Dieu, voilà. Et je m'appuie sur ça, il est mon seul roc, je m'appuie sur lui. Confiance dans la Providence, etc. Voilà. Oui,
vous aviez expliqué que du temps de Saint François, il pouvait y avoir des conflits, des oppositions vis-à-vis de l'Église, comment Saint François faisait pour garder une certaine unité pour justement éviter ces tensions, parce qu'il était vraiment dans l'obéissance à l'Église, mais comment il gardait cette unité entre ses frères, parce que je sais qu'à une époque, quand il est revenu de Jérusalem, je crois, il a vu ses frères déjà se disperser ou être en division. Donc, comment il a essayé de remettre l'unité, et dans le monde actuel, travaillant même dans une paroisse, je vois des conflits, je vois des personnes parfois qui sont en opposition avec certaines choses dites par l'islam, et comment faire jaillir ce charisme franciscain à aider les gens à garder cette unité. Les gens sont avec des sensibilités différentes, mais voilà, c'est compliqué parfois. Donc, comment Saint François faisait pour garder cette unité, en tout cas, comment il essayait?
Si je veux répondre juste en peu de temps, moi, ce qui me vient, c'est qu'il est centré sur Jésus, et que c'est Jésus qui fait l'unité, et que c'est. Il voit dans l'évangile que Jésus a confié les clés à Pierre, et il en a souffert aussi, hein. Ça n'a pas été simple pour lui, l'obéissance n'a pas été toujours simple, mais il a toujours tenu. Alors je sais pas assez son secret et tout ça, mais on voit en tout cas que dans sa vie il a toujours tenu, il n'a jamais voulu rien faire. Et aussi Jésus aussi dans l'obéissance et tout ça, il n'a jamais voulu rien faire qui ne serait pas dans une obéissance. Il ne s'est jamais situé comme moi je sais, je vais vous aider. Enfin, c'est toujours j'ai une intuition, mais il faut qu'elle soit confirmée par ceux qui ont reçu ce charisme de discernement. Ouais. Il y a un beau livre qui va un peu dans ce thème-là, de l'ancien évêque d'Assise, qui vient de changer, hein, il n'y a pas longtemps, là, Monseigneur Sorrentino. Il s'est mis à la place, lui, évêque d'Assise d'aujourd'hui, il s'est mis à la place de l'évêque d'Assise de l'époque, Il s'est dit, si un énergumène comme François était venu, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que c'était pas évident non plus pour l'autorité de bien discerner entre tous ces courants, tout ça, si ça vient vraiment de l'esprit. Et ce livre s'appelle « Complice de l'esprit ». Charisme de l'autorité, le charismatique et l'institutionnel sont tous les deux complices de l'esprit. C'est un livre qui n'est pas très grand, ça se lit assez facilement, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si, comment on peut le trouver, mais si jamais vous le trouvez, il faut le lire. Voilà. Bon.
C'est quoi le titre, pardon, le
titre Complice de l'esprit.
Complice de l'esprit.
Il y a beaucoup de références à Saint-Paul dans le chemin de François.
Oui.
Quand vous nous expliquiez tout à l'heure qu'il descend, qu'il s'abaisse.
Oui.
Enfin, quand, je sais plus, c'était sur l'humilité.
Oui.
Il avait une soif de l'évangile.
Oui, c'est sûr. Si on voulait, alors on pourrait faire tout un topo sur les liens entre François et Paul aussi, hein, c'est sûr.
Non, c'est
vrai. Par exemple, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, par exemple. Ma vie aujourd'hui, c'est je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Voilà. C'est vrai qu'on entend beaucoup d'accent de Saint Paul. L'hymne aux Philippiens, il s'est abaissé, il s'est anéanti. Ouais.